Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, l'olympisme est-il hors jeu? C'est la question que se pose ce mois-ci Esprit, notre revue partenaire. Elle va être au cœur de cette émission avec Anne Dugin, notre amie Anne Dugin, la rédactrice en chef de ce monument de la vie intellectuelle, Esprit en éveil depuis 1932, rappelons-le. Certes, les Jeux Olympiques s'avèrent une fête populaire, un moyen pour les peuples de se rencontrer et aux sportifs d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, c'est indéniable. Mais les JO posent également des questions politiques. Que restait-il au fond de l'esprit olympique quand tant d'intérêts sont en jeu, intérêts économiques, politiques, géopolitiques? Il nous interroge en outre sur la place du sport dans nos sociétés. Dans la seconde partie de l'émission, nous serons toujours en compagnie d'Anne Dugin, qui, lorsqu'elle ne s'occupe pas de la revue Esprit, écrit de la poésie. Son dernier recueil en date vient d'être publié chez Gallimard, il s'intitule « Noyau manquant ». Voici donc un nouveau numéro d'Idée, un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur l'application RFI Pure Radio, sur le site de la radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Anne Dugin.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Je l'ai dit, vous êtes rédactrice en chef de la revue Esprit. Et Esprit s'intéresse, c'est évidemment d'actualité, mais vous traitez ce sujet avec le recul, votre recul habituel. Esprit qui est consacré à l'olympisme.
Ben oui, il nous semblait que c'était le bon moment pour en parler.
Certes.
Avec un petit doute de savoir si peut-être les lecteurs ou les auditeurs n'en pourraient plus, au contraire, et se diraient « Ah non, pas un dossier supplémentaire sur la question des Jeux Olympiques ». Mais précisément, comme vous le dites, on a fait le choix, grâce à Marianne Amar, qui a coordonné ce dossier, qui est historienne, le choix du temps long, le choix du recul, pour interroger finalement cette notion, l'olympisme, ce que c'était au départ et ce que c'est encore ou peut-être ce que ce n'est plus. Et malgré tout, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui tient dans cette ambition, dans ces ambitions fondatrices, qui vont être réactualisées encore une fois dans cette nouvelle édition qui démarre.
Sans vouloir trahir de secret, d'entrer trop dans la vie de la revue, est-ce que ce dossier, ce thème s'est imposé de lui-même ou est-ce qu'il y a eu des discussions?
Alors, comme toujours, il y a eu des discussions, c'est-à-dire que...
C'est pour que les auditeurs comprennent comment vous travaillez.
On a un comité de rédaction qui est actif, qui se réunit tous les mois, qui discute, qui s'interroge sur quelle serait la bonne programmation, quels seraient les bons sujets à traiter à l'échelle de quelques mois. Et donc là, ce dossier est venu d'une proposition faite par Marianne Amar, qui connaît bien la revue. Et qui nous avait fait part, il y a déjà un an au moins, de son désir de travailler cette question à l'occasion des Jeux Olympiques dans la revue. Elle a fait sa thèse sur le sport. Aujourd'hui, elle dirige la recherche au musée de l'immigration. Elle a évolué vers d'autres préoccupations. Mais ce sujet continue de l'intéresser. Et voilà, elle avait à cœur de nous proposer cette réflexion à la croisée de l'actualité et de questionnements plus historiques. De long terme.
Justement, Marianne Amar, qui ne pouvait être parmi nous aujourd'hui, a écrit l'introduction de ce dossier. Cette introduction est intitulée « L'olympisme est-il hors jeu ?» Je lui ai demandé ce qu'il fallait entendre par là. Écoutons-la.
Alors, c'est un jeu de mots, parce que tout le monde dit l'olympisme, mais malgré tout, ce sont les Jeux olympiques. Et en fait, de manière un petit peu effectivement provocatrice, l'idée était de savoir, mais au fond, est-ce que l'olympisme est-il toujours un jeu? Mais est-ce que c'est pas pour ça qu'on dit l'olympisme d'un côté et les Jeux de l'autre? Et en réfléchissant, il semble que ce soit presque deux entités très différentes. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'olympisme, puissance privée, mais qui a réussi à se faire reconnaître du côté d'organisations publiques, internationales. La trêve olympique a été reconnue aussi par l'ONU, et donc qui est franchement dans le champ du politique, quel qu'il soit. Et puis par ailleurs, vous avez les Jeux, c'est-à-dire vous avez ce moment où des athlètes du monde entier se retrouvent sur un stade, dans une piscine, sur un tatami, et mènent leur compétition, souvent la compétition d'une vie. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui est au dehors, c'est-à-dire avec cette puissance politique de l'olympisme, même si cette puissance politique se pare des habits de la politisme. Hein. Je reprends les termes de Jacques de France. Donc vous avez un petit peu deux mondes, et en fait mon idée était d'abord de poser qu'il y avait deux mondes, et ensuite avec différents auteurs, de voir comment malgré tout, ça circulait d'un espace à l'autre, et que peut-être qu'entre le jeu et l'olympisme, et le sport, et le monde réel, il y a comme ça des espaces successifs qui se tissent de relations dans un sens ou dans un autre. Donc c'était un peu ça, et l'olympisme est-il hors-jeu? C'est-à-dire que est-ce que finalement la puissance politique de l'olympisme ne le met pas complètement à l'écart du jeu, mais de temps en temps il a besoin de venir y piocher pour se refaire, j'allais dire une virginité, en tout cas plutôt... une légitimité.
Et dans cet impact politique dont vous parlez, Marianne Amar, il y a donc cet impact géopolitique également, avec cette notion de trêve olympique, par exemple.
La trêve olympique, telle qu'elle s'est petit à petit instituée au sein de l'olympisme contemporain, n'a jamais existé dans ces formes-là, au temps des premiers Jeux olympiques. Mais elle a été instituée en 1993, et je pense qu'effectivement, c'est cette trêve olympique qui, probablement, porte le mieux cette politique de la politisme. C'est-à-dire, l'olympisme dit, la trêve, c'est nous, la paix, c'est nous, nous en sommes les garants, et nous vous demandons, vous, puissants pays, vous avez des comités nationaux olympiques que nous accueillons au sein du CIO, ben, nous vous demandons d'en être les garants. C'est la paix comme instrument et la trêve comme instrument du politique et instrument de reconnaissance d'une puissance. Voilà.
Et sur le plan des Jeux, cette fois, Marianne Amar, il y a les disciplines olympiques qui peuvent évoluer de Jeux olympiques en Jeux olympiques. Vous écrivez que le choix des disciplines paie son tribut à la modernité.
Oui, c'est-à-dire qu'on voit bien, il y a dans l'espace public, on a tous vu des pratiques tout à fait libres. Hein. Alors, il y a l'escalade, et puis il y a le breaking, et donc ce sont des pratiques libres, à peine des Jeux, parce que souvent, ce n'est pas codifié sous forme de compétition. Et puis, tout d'un coup, l'olympisme s'y intéresse, parce qu'il a besoin de capter des nouveaux publics. Et alors, tout d'un coup, on exige quand même d'eux un certain nombre de choses. Et puis, ils doivent aussi se mettre aux normes, littéralement.
Alors, une dernière chose, Marianne Amar, ces Jeux olympiques constituent une fête, en tout cas pour une partie du public qui est pris par cet engouement, une fête pour, évidemment, les athlètes. Mais les Jeux olympiques, c'est aussi de plus en plus comme les autres grandes compétitions, les autres rassemblements, des manifestations où les méthodes sécuritaires sont à l'œuvre pour assurer précisément le bon ordre. Vous avez une phrase qui fait mouche, en fait, et vous écrivez « Le QR code sera peut-être in fine la vraie mascotte des Jeux ».
Quand on voit plus d'un mois avant les Jeux, l'entreprise de contrôle, de fermeture, de mise en place, de QR code, d'autorisation, etc., on voit bien aussi comment tout circule entre l'olympisme et le réel. C'est-à-dire qu'il y a quand même, avec l'olympisme, la mise en œuvre ou la réactivation d'un certain nombre de méthodes liées au Covid. Hein. Donc on voit ressurgir des QR codes, des autorisations, etc. Et il ne fait pas de doute que ce qui va se mettre en place avec l'olympisme va certainement perdurer. Enfin, l'olympisme ne le crée pas, mais pour moi, à l'évidence, elle va l'accélérer et ça ne disparaîtra pas du jour au lendemain.
Donc Marianne Amar, que j'ai interrogée car elle ne pouvait être là aujourd'hui, Anne Dugin, vous avez avec elle donc préparé ce dossier sur l'olympisme. C'est vrai que ce qui marque, c'est ce double côté, cette double face des Jeux olympiques, le côté institutionnel, politique et le côté jeu, précisément sport. Et vous êtes intéressé donc à l'ensemble de ces aspects. En établissant un lien, par exemple, en étudiant le lien qu'il y a entre la République, pour parler de la France, hein, puisqu'il s'agit des Jeux Olympiques de Paris, le lien entre la République et le sport.
Oui, c'est Patrick Mignon. Voilà, c'est Patrick Mignon qui nous livre effectivement cette réflexion sur la place du sport dans la République française et qui fait valoir là une spécificité historique un peu française. Qui est que quand on y réfléchit, la République a toujours entretenu une relation ambivalente avec le sport, dont elle a mis beaucoup de temps à voir l'utilité, finalement. Et à la différence de nations beaucoup plus sportives, en réalité, sur le fond, comme les Britanniques, par exemple, cette idée...
Qui sont à l'origine de tout ça, d'ailleurs.
Absolument.
Enfin, de ce sport, de cet engouement pour le sport.
De ce rapport-là au sport comme faisant partie, partie prenante vraiment de la vie de la société, en fait. Pour la République française, tant que c'est pas utile, tant qu'on sait pas à quoi ça sert politiquement, tout ça n'est pas très intéressant. Et finalement, on soupçonne toutes sortes de choses, que c'est des lieux où vont se nouer des pratiques douteuses ou des formes de militantisme dont on a pas forcément très envie. Et en réalité, la République française a longtemps eu une version très réductrice du sport, qui était celui de l'éducation physique et sportive. Voilà. L'EPS, la fameuse EPS à travers laquelle tous les écoliers français passent encore, c'est-à-dire une façon de discipliner les corps, les esprits, la gymnastique, en réalité, comme étant le sport comme lieu d'éducation. Et il montre très bien comment, finalement, c'est dommage, et la France a mis du temps à investir une vocation sportive au sens où elle comprendrait la place que les pratiques sportives peuvent avoir dans la vie de la nation, et y compris dans une politique de puissance.
Et visiblement, ça marche, parce que Patrick Mignon nous rappelle qu'il y avait quasiment 2 millions de licenciés en 1949, tous sports confondus, et qu'il y en a aujourd'hui quasiment, il y en avait en 2022 quasiment 10 millions.
Absolument.
Donc il y a eu une explosion du nombre de licenciés. Et l'État s'est assuré aussi de la préparation des athlètes. Il y a un institut dédié au sport de haut niveau.
Voilà, il nous montre comment la question de la professionnalisation du sport est passée effectivement par une prise de conscience des autorités publiques et qu'il fallait l'accompagner, qu'il fallait permettre qu'il se forme et qu'il fasse rayonner le pays, mais toujours dans une forme de rapport utilitariste et finalement déconnecté du pur intérêt gratuit pour le sport qui n'est pas complètement dans notre culture.
Oui, parce qu'il rappelle aussi que le sport, c'est aussi l'unité, contribue peut-être à l'unité d'une nation. On l'a vérifié, par exemple, ça n'a pas duré longtemps, après la Coupe du Monde de 1998.
Oui,
absolument.
Mais Patrick Mignon nous rappelle que nos dirigeants ont été un peu pris par surprise par cette bonne nouvelle.
suite de ce numéro d'idées en compagnie d'Anne Dugin et la revue Esprit s'intéresse ce mois-ci à l'olympisme. L'olympisme est-il hors-jeu? C'est l'interrogation de l'introduction à ce dossier. Nous continuons à tourner les pages avec vous, Anne, de ce dossier. Et Sylvain Dufresne lui s'intéresse, on l'évoquait avec Marianne Amar, à la trêve olympique, à cette notion de trêve olympique qui finalement s'est imposée assez tardivement.
Oui, et Sylvain Dufresne nous rappelle que c'est ce qu'on appelle une tradition inventée. C'est-à-dire qu'on l'a fait remonter à l'Antiquité, que pendant les Jeux, les combats s'arrêtaient. On sait que c'est faux.
C'est comme la flamme.
Sur le plan historique, voilà. Et pour autant, cette idée persiste. Et elle est très significative de ce que Marianne évoquait très bien dans la petite introduction qu'elle a faite à l'instant, qui est que ce rapport de tension et de communication entre l'olympisme et le réel, c'est-à-dire la création d'un espace qu'on veut protéger, en réalité, de la vie sociale et politique commune, où primerait le désintéressement, où primerait la paix, où primerait l'apolitisme également, comme une espèce de microcosme protégé, mais dont on attend néanmoins qu'il ait des effets sur le réel. C'est-à-dire qu'il y insuffle un certain nombre de valeurs, d'espérances, dont celui de la paix. Et cette histoire de la trêve olympique est très significative de cela. Elle est aussi significative avec son institutionnalisation officielle dans les années 90, au moment où la trêve olympique est reconnue par l'ONU, comme l'expliquait Marianne, du rôle croissant du CIO comme acteur politique, comme acteur diplomatique. Et donc là, on voit que les liens entre l'olympisme et le réel, ils sont forts. C'est-à-dire qu'il s'agit bien quand même, pour le Comité international olympique, de vouloir peser, à sa mesure, dans certaines formes de destinée du monde.
Même s'il y a des résistances en 2023, un appel à la trêve pour ces Jeux olympiques voté par l'Assemblée générale ne l'a pas été par consensus, car il y a eu l'opposition de la Russie et de la Syrie.
Et ça, on retrouve là les tensions politiques et diplomatiques qu'on connaît bien, qu'on connaît sur tous les sujets. Preuve que le sport n'est pas coupé du réel.
Alors vous avez, comme dans chaque numéro, Anne Dugin, dans cette édition d'Esprit, un entretien. Et là, c'est un entretien avec Olivier Aubel, qui est sociologue du sport et champion d'escalade, précisément sur le thème de l'escalade.
Oui. Et alors, on avait vraiment à cœur de le faire parler en tant que champion, plus qu'en tant que sociologue. Et c'était très intéressant. C'est Patrick Mignon qui a réalisé cet entretien.
Escalade, donc discipline olympique.
Qui est devenue discipline olympique. Et donc, ce que nous raconte Olivier Aubel du point de vue de la pratique, c'est qu'est-ce que ça fait à une discipline? Une discipline en plus très associée à la contre-culture, au sport en extérieur, à la question du rapport à l'environnement, etc. Qu'est-ce que ça fait de devenir discipline olympique? Comment ça la formate? Quelles questions ça pose? Puisque, comme le disait Marianne également en introduction, quand on est discipline olympique, et quand on est de toute façon, quand on devient sport de compétition, il faut établir des critères qui permettent de hiérarchiser, qui permettent de dire qui est le gagnant, qui est le perdant. Ce qui, en escalade, n'est pas si simple en réalité. Alors moi, je n'étais pas du tout spécialiste de la question, mais Olivier Aubel l'explique très bien. Entre ce qui va relever de la vitesse, ce qui va relever finalement de la difficulté à franchir un certain nombre d'obstacles dans la grimpe et avec style en réalité, c'est pas du tout les mêmes critères d'évaluation. Donc comment est-ce qu'on formate des épreuves olympiques pour qu'à la fin il y ait quelqu'un qui monte sur le podium? C'est une question qui n'est pas si simple et qui ne se fait pas sans perte en réalité sur ce qu'est la discipline elle-même. Alors il y a l'escalade. Mais ce dont on parle beaucoup pour cette nouvelle édition de 2024, c'est la breakdance, qui devient discipline olympique. Culture urbaine, s'il en est, libre également, s'il en est, et qui va devoir passer à travers les fourches caudines du fait de devenir discipline olympique, ce qui est en même temps une grande reconnaissance.
Oui, c'est une ouverture du comité olympique vers les sociétés.
Absolument. Et Marianne rappelait que c'est très important de rester en prise avec les sociétés et la manière dont elles se transforment, dont elles évoluent. Et pour autant, ça ne fait pas rien de devenir une discipline olympique.
Et Anne Dugin, cela pose aussi la question de la définition du sport. Qu'est-ce qu'un sport, finalement? Parce qu'il y a les puristes qui vont vous dire les Jeux olympiques, c'est le 100 mètres, c'est l'athlétisme. Que vient faire la danse, breakdance, l'escalade?
Mais moi, je trouve que cette question est intéressante parce que les questions qu'on se pose sur l'escalade ou sur le breakdance, ça nous rappelle que les liens entre le sport et la culture sont très forts. Le sport, c'est d'abord une culture, c'est d'abord une manière de produire des gestes, de se confronter à un certain nombre de défis dans le rapport au corps, dans la performance, certes, mais c'est d'abord une manière de fabriquer des gestes qui sont profondément culturels et pas seulement sportifs. Et donc voilà, la question de savoir comment ils évoluent dans une pratique sportive codifiée qui évalue les différents compétiteurs. Voilà, c'est une question en soi.
Marianne Amar, tout à l'heure, nous parlait du jeu, c'est-à-dire l'autre face des Jeux Olympiques, autre que politique, le jeu. Et Juliette Vion-Dury s'interroge sur le fait de savoir ce qu'est le jeu. Et elle cite Freud, par exemple, qui disait « Le contraire du jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité ».
Et oui, et on a voulu ouvrir ce dossier sur cet article de Juliette Vion-Dury, complètement décroché de la question du sport ou l'olympisme, qui vraiment interroge ce que c'est que le jeu. Parce que l'hypothèse que fait Marianne dans ce dossier, c'est que ce qui malgré tout tient, en dépit du fait que l'olympisme, tel que l'avait pensé Pierre de Coubertin, ne tient pas vraiment ses promesses, ni sur le plan de la politisme, ni sur le plan du désintéressement, ni, etc., etc. Mais ce qui tient, c'est le jeu. C'est cette promesse qu'on va pouvoir jouer. Et que dans cet espace-temps que crée le jeu, qui instaure également une relation avec l'autre, on ne joue jamais tout seul, et en particulier pas dans le cas des sports que sont les disciplines olympiques, on est en dialogue avec d'autres, et ben se joue la possibilité de créer un rapport original au monde. Et en mêlant beaucoup de références littéraires, historiques et psychanalytiques, Juliette Vion-Dury montre effectivement, elle reprend les items, vous savez, de la comptine enfantine, l'ouillais-tu, que fais-tu, m'entends-tu, l'ouillais-tu, c'est-à-dire on crée un espace qui est celui du jeu. M'entends-tu ? On crée une relation au sein de ce jeu. Que fais-tu ? La possibilité de développer un rapport original au monde. Et bien finalement, c'est peut-être là que réside le dur de la promesse olympique. C'est que les sociétés vont pouvoir retrouver cette innocence-là, finalement, cette promesse-là du jeu.
Alors continuons à parcourir les pages de ce dossier passionnant, comme tous les dossiers d'esprit chaque mois, Anne Dugin, où il est étudié de près que le fait que les JO sont liés aussi à la nation, à la notion de nation. Et ces Jeux olympiques posent tous les quatre ans la question de la place de la nation et des imaginaires nationaux projetés, symbolisés par exemple par la cérémonie d'ouverture où les délégations se montrent l'une après l'autre du plus petit au plus grand pays.
Oui, et alors c'est Olivier Lenoé et Julien Sorez qui nous proposent un article intitulé « Les Jeux Olympiques ou le national dans tous ses états ?» avec « état » avec une majuscule. Et finalement, qui nous montre comment dans ces grandes compétitions sportives internationales, la nation a une place tout à fait considérable. Les athlètes sont identifiés, les drapeaux, tout ça, la cérémonie d'ouverture, on le sait bien. Il rappelle aussi que les Jeux Olympiques, mais là, comme beaucoup de toutes les grandes compétitions sportives internationales, sont capables de réveiller le sentiment d'appartenance nationale de façon tout à fait forte, y compris chez des personnes très peu politisées.
Donc était très loin certaines années.
Ça peut aller très loin.
1936. Donc,
le sport est un des lieux privilégiés d'affirmation du sentiment d'appartenance nationale. Et pour autant, les Jeux Olympiques, et aussi parce qu'ils sont traversés de toutes ces transformations du monde, de toutes ces tensions qu'on évoquait tout à l'heure, ils sont le lieu d'une redéfinition des contours de cette appartenance. Par exemple, quand on voit apparaître des équipes de réfugiés. Par exemple, quand la question coloniale a pu faire irruption dans les Jeux et être par là un lieu de contestation d'un certain nombre de dominations coloniales. Par exemple, quand est rendu possible le statut d'athlète neutre hors appartenance nationale. Tout cela participe de cette forme de dépassement ou de contestation de l'État-nation qu'on voit à l'œuvre dans les relations internationales et qu'on retrouve dans les Jeux Olympiques.
Alors, terminons cette évocation de ce dossier avec l'article le plus critique sur les Jeux Olympiques, où l'auteur Hassan Belmessou nous dit que, en fait, les Jeux Olympiques, selon lui, c'est une sorte de cocon du néolibéralisme.
Oui, vous avez raison de souligner que c'est l'article critique, le plus critique du dossier, mais qui nous paraissait vraiment tout à fait intéressant. Bon, d'abord parce qu'il signale quand même, il témoigne d'un sentiment qui est un petit peu partagé, notamment par un certain nombre de Parisiens, que la ville s'est transformée très vite. On évoquait le QR code, mais il y aurait beaucoup à dire.
Lui écrit par exemple, et c'est vrai, c'est une évidence, que la capitale a perdu le peuple.
Oui, et au sens premier, qui est que les populations les plus pauvres, les plus précaires, dont on n'avait pas du tout envie qu'elles traînent dans le centre de Paris au moment des Jeux, sont explicitement poussées vers la sortie. Bon, de la même manière, ces Jeux-là font une place très importante à la Seine-Saint-Denis. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans ce quartier, dans ce territoire qui est populaire, comme chacun sait. On ne sait pas si ce n'est pas, au final, au détriment des populations qui y vivent. Mais il montre surtout à Seine, Belmessous, à quel point l'échec de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2012 face à Londres a représenté un tournant dans le fait que ces élites dirigeantes se sont dit qu'il fallait choisir un projet de ville néolibéral, nous dit à Seine, une ville monde désirable sur le marché des villes mondes et finalement volonté déconnectée de sa population et du peuple en particulier, attractif pour les investisseurs, attractif pour les touristes étrangers, mais au risque de perdre le peuple.
Oui, lui, il écrit même que ces Jeux Olympiques, cette transformation de Paris, c'est la victoire des promoteurs et des lobbies.
Oui, des lobbies spéculo-marchands même, nous dit-il, dans une formule que j'aime bien. Mais oui, ce qu'il nous dit, c'est que finalement, les Jeux Olympiques cette édition, ont été un catalyseur d'une évolution fondamentale de transformation de Paris comme ville-monde, où elle doit être en compétition avec New York, avec Londres, avec Sao Paulo, avec Barcelone, et que finalement, il s'agit d'être attractif sur ce marché, sur ce grand marché des villes-monde, plutôt que de se préoccuper de sa propre population.
Merci Anne Dujain. Il faut rappeler que Esprit, que la revue Esprit, c'est aussi un site.
Oui, esprit.presse.fr.
C'est aussi une lettre.
Oui, le mot d'Esprit qui part tous les vendredis.
Et ce sont aussi des podcasts.
Des podcasts,
vous savez de quoi vous
vidéos.
Parlez, puisque c'est vous qui en avez fait un certain nombre.
Oui, voilà.
Notamment
une autre manière
de
faire circuler les idées et les textes.
Anne Dujain, donc, la rédactrice en chef de la revue Esprit, dont le numéro de juin s'intéresse, vous l'avez donc compris, aux Jeux Olympiques. Vous allez voir, il est totalement passionnant. Restez avec nous, Anne. Dans un instant, nous allons parler de votre dernier recueil de poésie en date. Il s'intitule « Noyau manquant ».
Tout un monde défile tel que je le vis. Ces images sous mes paupières font comme au fond d'un puits les pierres, dilatant l'iris noir de l'eau. C'est tout le passé qui s'émiette, un souvenir sur l'autre empiète et les soleils sur les sanglots. Pierre impalpable, existence couleur de sable, brouillard des respirations. Quel choix préside à mon vertige, je tombe et fuis dans ce prodige, ma propre accélération. Au pluie, au poussière.
poussière impalpable. Existence couleur de sable.
De ce numéro d'idées, et c'est la deuxième partie, la seconde partie de ce numéro, et nous sommes toujours en compagnie d'Anne Dugin, qui cette fois va nous montrer une autre face, qui est sa passion pour la poésie. Avant de parler de noyau manquant, son recueil, il faut d'abord parler de passion.
Oui, de pratique aussi, comme lectrice d'abord, et de compagnonnage, j'aime dire. C'est-à-dire que voilà, elle fait partie du regard que je pose sur le monde.
Parce que écrire des poèmes, c'est avoir une certaine vision du monde.
Je crois oui. En tout cas, si c'est toujours très compliqué de définir ce que serait ou ce que ne serait pas la poésie, mais je pense que la poésie est ce que j'appellerais une situation dans le langage. C'est-à-dire, à la différence de la prose, elle est cet espace dans la langue où, effectivement, on cherche à réinterroger sa place dans le monde, dans le réel, à travers le langage. Et en utilisant pour cela une langue qui n'est pas la langue commune de la communication de la prose, mais qui révèle d'un autre rapport à la langue et donc au monde.
Et il y a plusieurs façons d'écrire des poèmes. Il y a le poème quotidien, il y a le poème aussi d'avant-garde, le poème un peu hermétique. Vous, c'est pas du tout cette catégorie-là, on va le voir, qui vous intéresse.
Non, alors je pense que effectivement le lectorat français, et français plus que francophone d'ailleurs, je crois, est très dépendant de cette idée, d'une certaine idée de la poésie d'avant-garde hermétique. Parce que je crois que la France est un grand pays de poésie, mais elle a été un vrai laboratoire expérimental, formel. Ce qui fait qu'on se sent...
Depuis le 19e siècle, au moins.
Depuis le 19e siècle, au moins. Et en réalité, si bien qu'il me semble que quand on écrit de la poésie en France, on a toujours besoin de se situer par rapport à ce niveau d'ambition formelle où il serait presque louche de faire quelque chose de compréhensible, vous voyez, c'est que ce serait pas bon. Il faut avoir un niveau d'ambition théorique et critique dans la langue. Et je crois que les lecteurs italiens, espagnols, anglais également, mais aussi libanais, que sais-je, ont un rapport totalement différent à la poésie, où le rapport entre des formes plus populaires de la langue et les grands poètes est beaucoup plus immédiat. Où cette idée de la poésie comme lieu de l'expérience vécue est tout simplement plus simple.
Et avec Noyau manquant, vous entrez chez Gallimard.
Oui, c'est mon second recueil et le premier publié chez Gallimard.
C'est intimidant, non ?
Bah, un petit peu, oui, toujours, vu qu'on a le sentiment de s'inscrire dans une grande maison. Et en même temps, il faut se rappeler que il y a des recueils extraordinaires qui paraissent dans les petites maisons. Donc, en poésie, comme dans d'autres champs, l'habit ne fait pas le moine.
Oui, ce qui est frappant, d'ailleurs, on va parler de noyau manquant dans un instant. Ce qui est frappant, c'est la richesse, en fait, des publications de poésie.
Oui, c'est un,
souvent,
c'est un milieu, c'est
il
un
faut les chercher il faut aller les chercher au fond des librairies, mais elles existent, ces publications.
Non seulement
ces
elles livres existent, mais c'est un écosystème éditorial qui est particulièrement vivant, la poésie. Et donc, il faut quand même toujours rappeler que ce sont les petits éditeurs qui font vivre la poésie, qui la découvrent, qui la publient, alors même qu'elle n'a pas... Elle a un lectorat fidèle, mais ce n'est pas un lectorat très large. On ne fera jamais fortune avec de la poésie. Un éditeur ne peut pas vivre de ça, ou très difficilement, un auteur encore moins. Ce caractère vivant, foisonnant, est très riche et important à rappeler.
Anne Dugin, dans ce recueil « Noyau manquant », il y a plusieurs parties. Vous avez regroupé ces poèmes dans 6 ou 7 parties, « Vie commune »,« Chantier », en suivant la lumière, les cieux du temps, rien que les titres de ces parties sont des poèmes. Noyau manquant, donc, sous le torchon humide, dans la langue éclaircie. Et c'est à la fois la vie quotidienne et un certain ésotérisme qui vous intéresse. C'est-à-dire qu'un événement de la vie quotidienne, on va prendre des exemples, vous permet d'aller plus loin. De vous évader.
Oui, c'est exactement cela. Et donc, je ne sais pas si je dirais que c'était ésotérique, mais en réalité, ce que vous avez raison de souligner, c'est que je crois vraiment que la nécessité d'un poème, elle se loge d'abord dans une sensation, dans une expérience qui, effectivement, chez moi, est en général de tous les jours. N'a rien de particulièrement extraordinaire, s'inscrit vraiment dans la vie commune.
C'est intéressant, parce que pour beaucoup, le poète, c'est celui qui est dans la solitude, loin des humains, et qui voit le monde
de très haut.
C'est l'image classique.
Oui, mais je crois que
héritée du 19e aussi.
C'est l'image qu'on a héritée du romantisme, en effet. Et je crois qu'on est encore très tributaire de cette figure-là du poète. Et parfois, pour le pire, ce poète qui serait loin, qui serait coupé des autres, et puis surtout qui serait comme ça, traversé, zébré par des espèces d'intuitions qui sortent d'onde ses ou, et qui communique de façon plus ou moins limpide à un public qui, lui, en serait privé. Et ça ne correspond pas du tout, ni à mon expérience de lectrice, ni effectivement à ce que j'aimerais donner à entendre. Et le poème, il s'inscrit, il part de quelque chose qui, bien souvent, est très, effectivement très quotidien, mais de ce rien qui, néanmoins, a eu le pouvoir de me déplacer dans ma vie et dont j'ai envie de pouvoir témoigner pour cela.
Pouvez-vous nous en lire quelques-uns de ces poèmes, à commencer peut-être par Noyau manquant. Quel est ce noyau manquant d'ailleurs ?
Alors, j'ai été sensible au fait que vous souligniez qu'il y avait un parcours, une structure dans le recueil. C'est toujours un petit peu la difficulté, parce que l'unité de base, ça reste le poème. Mais est-ce que ces poèmes, ce sont des miettes comme ça qu'on a ramassées dans une nappe ? Et il y a un moment, il faut fabriquer un livre. Et pour fabriquer un livre, il faut que tout ça ait une cohérence.
Mais sachant que quand vous écrivez les poèmes, vous n'avez pas l'idée de faire un livre ?
Non, dans mon cas, ça vient après. Mais ça peut être tout à fait différent chez d'autres poètes. Et donc, je crois que ce qui a déterminé la construction du recueil, dont la section centrale s'appelle Noyau manquant et qui a donné le titre au recueil, c'est ce désir que j'avais de témoigner du fait que l'écriture fouille la vie humaine dans ce qu'elle a de plus divers, dans ce qu'elle a de plus quotidien et parfois de plus singulier. Elle la fouille à la recherche de quelque chose qui serait le centre, qui serait le cœur de l'expérience. Donc je crois que la poésie est le moyen, c'est ça qu'on cherche en général, c'est témoigner de ce qui est fondamental dans la vie. Mais plus on s'en approche, plus il s'échappe. Et finalement, quand l'écriture fouille, brasse ses éclats, brasse ses expériences, je crois en tout cas, c'est l'expérience dont j'ai voulu témoigner, qu'elle tombe sur une vie absente, une vie manquante, qui est quand même le cœur de la vie, qu'on ne saisit jamais. Et je crois que c'est ça que j'ai cherché à nommer dans cette expression peut-être un peu étrange de noyau manquant. Et effectivement, cette expression était dans un poème qui ne porte pas le titre Noyau manquant, mais dans lequel il y en a l'expression. Et que je vais...
Alors, vous êtes en train de feuilleter votre recueil, oui, comme vous avez... si vous le découvriez. C'est assez touchant, d'ailleurs.
Oui, parce que le recueil et les différents poèmes ne sont pas la même chose, en fait. Ce sont des réalités un petit peu différentes. Le soleil monte au-dessus de la mer. Il prend la forme d'une amande à travers tes yeux plissés. Autour de lui pousse peu à peu la chair de la ville. La canne du pêcheur encore seul sur la jetée. Les parasols colorés des cafés. L'heure sera bientôt passée où tu pouvais le regarder en face. Dans sa propre lumière, il se dilatera. Mais les couleurs l'auront bu et témoigneront pour lui, noyau manquant du jour, qui tient ensemble la réalité. Donc le noyau manquant dans ce poème, en réalité, c'est le soleil qui est le cœur de ce qui nous est visible le jour et que pour autant, on ne peut pas regarder en face, surtout dans le sud, autour de la Méditerranée, qui est une région qui m'importe et où dont beaucoup de sensations que j'essaye de traduire en poésie sont issues.
Est-ce que je peux me permettre de lire un autre poème,
oui, oui.
Anne Dugin, un de vos poèmes, qui est lié un petit peu à ce que vous venez de lire? Il s'intitule « Le plage privé ». D'un côté de la plage, les rangées de transat assorties au parasol, de l'autre, les serviettes multicolores posées à même les galets. Du mur qui sépare les deux mondes, ne subsiste que la ligne de bouées rouges et blanches fendant la mer à angle droit, dessinant le damier de nos existences sur lequel nous nous tenons figés, mais qu'efface un peu plus chaque vague, chaque rire des mouettes. C'est-à-dire que vous réussissez, avec quelque chose qui peut paraître banal, mais qui ne l'est pas, à parler de la fuite du temps, de l'effacement.
Oui, et en l'espèce du caractère sûrement un petit peu dérisoire de ces plages privées qu'on trouve si souvent sur les plages du Sud, et en Italie notamment, et qui crée une frontière entre ceux qui vont à la plage privée et ceux qui, juste à côté, posent la serviette à même les galets. Et du caractère très fragile, finalement, de cette séparation, quand on profite de la même mer, quand on entend les mêmes oiseaux, voilà. Et donc, voilà, je crois que c'est cette expérience qui m'a suscité ce petit poème.
Un autre, peut-être.
Allez-y.
On ne va pas lire tout le livre.
Non.
Les pensées, c'est dans la partie, une des dernières parties du livre, c'est dans Noyau manquant, précisément, les pensées. Dans la ville, tu déambules dès que tu le peux. Tu allonges un trajet, ajoutes un détour par une rue aimée ou inconnue pour fatiguer tes pensées à l'étroit, retarder le moment de leur donner forme. Sur le chemin, tu avises des clairières, placettes, terrasses de café où tu pourrais t'arrêter, peut-être en fixer quelques-unes. Mais tu poursuis et repasses avec toi-même l'accord secret qui consiste à les garder ainsi, marchant silencieuse à tes côtés, connue de toi seul. Les pensées, donc.
Les pensées, oui. Et finalement, je pense un tiraillement que beaucoup connaissent entre le fait de se dire qu'il faudrait se poser, écrire, travailler, mettre en forme un certain nombre de choses. Et puis en fait, non. Préférer déambuler dans la ville et garder ses pensées comme ça, à ses côtés. Voilà, de cette tension que connaissent peut-être un certain nombre de travailleurs intellectuels, je ne sais pas. Cette sensation un peu nimbée de culpabilité quand même, de se dire qu'on ne fait pas forcément ce qu'il faut. Voilà.
Il y a aussi un poème dédié, consacré à un immeuble de Montreuil,
oui,
qui change de destinataire.
Oui, j'habite Montreuil, qui est une ville que j'aime beaucoup.
C'est près de Paris, hein, c'est dans la banlieue parisienne.
C'est en banlieue parisienne, oui. Qui se transforme beaucoup et très vite, où il y a beaucoup de chantiers pour de nouveaux immeubles. Et ces nouveaux immeubles accueillent de nouveaux arrivants. Et Montreuil était un lieu où il y avait beaucoup d'artisanat, de petite industrie. Et donc, il y a un certain nombre de ces anciens bâtiments industriels ou artisanaux qui sont transformés pour devenir des locaux d'habitation. Et voilà, et quand j'ai emménagé à Montreuil, j'ai eu le sentiment de vivre dans un chantier permanent pendant plus d'un an, puisqu'il y avait autour de là où on habitait beaucoup de ces chantiers de transformation. Et effectivement, j'y ai consacré une toute petite section sur ces impressions, finalement, de transformation de la ville et les sensations que ça a suscité.
Il y a aussi un poème où les réfugiés ne sont pas loin. Hein. De l'autre côté, il y a l'Afrique. Disions-nous le doigt pointé vers le large. Je ne vais pas tout lire. Il faut que nos auditeurs, en tout cas ceux qui le peuvent, lisent ce poème. Alors la question que je me pose, je vous l'ai déjà posée, mais la réponse n'est pas simple. Comment fait-on quand on est journaliste des idées avec la revue Esprit, c'est-à-dire de plein pied dans son siècle, avec tout ce que ça suppose? Comment fait-on pour être à la fois dans cette position et pour être dans celle de la poète, poétesse?
Et bien en fait, je crois, en tout cas tel que je le ressens, qu'il n'y a absolument aucune contradiction entre les deux. Bien au contraire. Je crois que le poète est dans son temps. En fait, le poète est toujours dans son temps. Ça, c'est une évidence. On est tous contemporains. Et donc, même quand il n'y paraît pas, ou que le poète assume une posture qui serait celle de la rupture, justement, avec le monde, en réalité, c'est un homme ou une femme de chair, de sang, qui vit, qui s'en nourrit. Et donc le monde est toujours là. Et cette articulation entre le regard journalistique ou le regard de la vie des idées et le regard du poète, en réalité, ne rentre pas en contradiction pour moi, au contraire. Mais je dirais que peut-être la poésie représente un avant, pas un avant temporel au sens où je m'y serais intéressée avant, parce que ça, c'est pas vrai. La poésie est venue un peu tard pour moi. Mais la poésie, c'est vraiment le lieu où je rééprouve la justesse du rapport entre les mots et le monde tel que je l'ai prouvé. Donc, y compris pour pouvoir écrire un article, y compris pour pouvoir écrire un éditorial d'esprit. Cette nécessité que je crois vraiment très profonde, très importante, qu'il y ait une justesse dans les mots qu'on emploie, une responsabilité dans les mots qu'on emploie, pour qu'ils ne trahissent pas ni ce dont on parle, ni ce dont on voudrait témoigner. Eh bien, la poésie est un lieu de travail de cela. Pour moi, en réalité, puisque c'est peut-être le lieu dans la langue où on réajuste les mots et les choses qui effectivement, dans le langage courant, peuvent être assez disjoints. Un mot peut se mettre à avoir des significations propres qui nous échappent un petit peu. Il peut être connoté, il peut servir à nourrir des clichés. Il peut, bon, voilà. Et dans ce réajustement des mots et de la langue, je crois qu'il y a vraiment le travail en propre du poète. Eh bien, je crois que je trouve une ressource pour tout le reste, pour tous les autres espaces de ma vie où je dois utiliser la parole.
Et quant à l'inspiration, ça c'est une question que l'on pose toujours, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, en particulier aux poètes, d'où vient-elle? Est-ce qu'il y a tout d'un coup une vision, une situation, une scène qui tout d'un coup vous alerte, entre guillemets? Ça semble être le cas dans certains des poèmes.
Oui, alors vision, tout dépend de ce que vous entendez par vision. Donc justement, vous avez raison de dire qu'on parle d'inspiration pour parler de poésie, et on pense tout de suite au bar d'Assurance Touring avec sa lyre. Non, je crois que c'est exactement ce que vous avez dit. Le poème, il vient de la sensation, il vient de l'expérience. Donc quelque chose que j'ai vu, quelque chose que j'ai entendu, quelque chose que j'ai... Et qui a frappé sur le tambour intérieur et qui l'a fait résonner d'une manière où je me dis que j'ai entendu là quelque chose que j'entends pour la première fois, que je ressens pour la première fois. Il faut que je trouve les moyens de le dire pour que quelqu'un d'autre puisse le ressentir, puisse l'entendre de manière renouvelée à son tour.
Merci Anne Dugin. Je ne saurais trop recommander votre recueil de poésie, donc publié chez Gallimard. Il s'intitule « Le noyau manquant » et surtout « Continuer ».
Merci.
Et donc, il y a la revue Esprit du mois de juin avec cette question, la question du dossier « L'olympisme est-il hors-jeu ?» Idée réalisée par Lorraine Nemoza. Retrouvez cette émission sur le site de la radio, l'application RFI Puro Radio ou sur votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain dans un instant, un nouveau journal sur RFI.